Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la transgression des lois? Qu'est-ce que l'amende des lois? Parfois vous entendez dire « repentez-vous ». Mais que signifie se repentir? Il y a des gens qui vous disent « à moins que vous ne vous repentiez, vous ne serez jamais sauvés ». Eh bien, qu'est-ce que le salut? Autrement dit, il y a tellement de questions. D'abord, il faut comprendre avant de savoir ce qu'est le péché et quelle est la conséquence du péché. Et vous entendez, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Mais trop tard, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fin qui nous empêche? Qu'est-ce qu'il y a à la fin qui nous force de péché? Eh bien, je vous dirai. Tout d'abord, en français, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, et c'est vrai. Mais ceci s'applique également à la loi divine ainsi qu'aux lois humaines. Il y a encore une autre différence. Il y a des lois naturelles que Dieu a créées, et lorsque nous transgressons ces lois, automatiquement, nous en payons l'amende. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, en tant que membres de l'Église, nous savons cela. Mais même en tant que membres de l'Église, nous devons savoir que le repentir va de pair avec le péché et qu'à moins que nous nous repentions de nos péchés, il n'y a pas de repentir. Le repentir, ce n'est pas quelque chose que vous faites aujourd'hui et que demain vous oubliez. Pas du tout. Le repentir, c'est quelque chose qui doit être permanent. Autrement dit, le péché n'est pas commis une seule fois, hélas pas. En tant qu'humain, nous sommes tous pécheurs, car notre nature humaine nous mène vers le péché. Alors, je vous pose la question, que signifie se repentir? La Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, que nous devons nous repentir. Il est temps de se repentir. En effet, il est temps de se repentir. Ce monde se dirige aujourd'hui vers la catastrophe. Les gens ne savent pas ce que c'est que la loi, en ce sens qu'ils ne veulent pas respecter les lois. Si vous savez qu'il y a une loi qui vous défend de faire telle ou telle chose, à moins que vous obéissiez à cette loi, eh bien vous payez les conséquences. Ce principe est le même que ce soit les lois divines, que ce soit les lois humaines, ou bien les lois naturelles. Laissez-moi vous expliquer une chose. Souvent, lorsque vous voyez quelqu'un qui souffre, qui est malade, vous dites, tiens, je me demande ce qu'il a fait de mal. Il est possible qu'il a fait ou qu'il ait fait quelque chose de mauvais, d'accord. Mais ne regardez pas le péché des autres. Regardez vos péchés à vous-même. Demandez-vous ce que vous avez fait de mal. Laissez-moi prendre d'abord Luc, chapitre 13, un chapitre qui est extrêmement intéressant, car le Christ nous donne, nous révèle une vérité que nous devons savoir avant de continuer ce sujet. Le Christ dit, Luc, chapitre 13, verset 1, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Alors, regardez voir la réponse du Christ. Il leur a dit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Voilà la bonne question. Ensuite, le Christ dit, « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Voilà la question. Ensuite, il va un peu plus loin. Ou bien, dit-il, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué chacune de ces personnes, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Et il répond non. Et il revient, mais dit-il, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, mes amis, c'est la base. Autrement dit, chacun paye pour ses propres péchés. Et chacun doit se repentir pour ses propres péchés. Ne regardez pas autour de vous si quelqu'un souffre en disant, tiens, je me demande quel mal a-t-il fait. Non, s'il a fait quelque chose de mal ou mauvais, Dieu seul en est juge. Mais vous cherchez, je répète, en vous-même ce que vous avez fait et comment changer votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que, voyez-vous, lorsque le Christ est arrivé sur cette terre, et en tant que Messie, et pour prêcher l'Évangile, la première chose qu'il a dit, par exemple Marc chapitre 1, verset 14, il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Notez-le, « Repentez-vous », c'est la première condition, et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le retour du Christ lorsqu'il viendra établir son royaume sur cette terre. Mais avant d'arriver à ce point, nous devons nous repentir, mais nous repentir de quoi? Nous revenons à la même question. Nous repentir des péchés que nous avons commis. Le péché et le repentir sont en quelque sorte vont main dans la main, pour ainsi dire. Sans le repentir, le péché reste. Et si nous commettons un péché, il y a toujours une transgression qui doit être payée, une amende qui s'ensuit, et c'est là où la plupart des gens ne comprennent pas la différence. Écoutez, mes frères et mes sœurs, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre ce sujet. Certes, nous autres membres de l'Église, nous connaissons ces choses-là. Nous savons ce qu'est le péché. Nous savons que nous devons nous repentir. Mais jusqu'à quel point sommes-nous vraiment sincères? Jusqu'à quel point nous pouvons dire que, vous savez, chaque soir je me repens. Ah, bien faites attention. Chaque soir je me repens, c'est comme ceux dans le monde qui, chaque samedi, pêchent. Ensuite, chaque dimanche, ils se repentent. C'est pas ça que j'entends. Nous autres, en tant que chrétiens, nous devons nous repentir chaque soir, car chaque jour nous commettons des fautes. Nous repentir sincèrement et faire de sorte que nous ne nous répétions pas les péchés. Le repentir n'a pas de sens, n'a pas vraiment de valeur, à moins qu'il soit permanent, à moins qu'il soit sincère, à moins que nous cessions de pécher. Par exemple, dans Luc, non, avant d'aller à Luc, prenez d'abord 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, nous avons une autre vérité qui s'en sort. Si, je dis bien si, bien que ce soit le cas, si la transgression des lois entraîne une amende, dans ce cas-là, nous devons faire de sorte que non pas seulement nous cessions de transgresser les lois, mais encore faire quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Vous savez ce que c'est? D'abord, je répète, nous devons obéir aux lois divines, d'accord? Mais ce n'est pas tout. 1 Jean chapitre 3, verset 22, regardez voir une autre condition que Dieu met et qui nous est indispensable afin que nous comprenions comment nous débarrasser du péché. Je répète, nous devons d'abord obéir à Dieu, d'accord, ne pas transgresser ses lois, d'accord, et nous repentir de nos péchés, d'accord. Mais il y a plus. Voyez-vous, vous priez, vous demandez à Dieu quelque chose et vous ne recevez pas de réponse. Vous priez de tout votre cœur, vous dites, écoute Dieu, je voudrais faire ta volonté. Et que Dieu continue à vous faire la sourde oreille. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que vous dites même, écoute Dieu, j'observe tes lois autant que je le peux. J'observe ton sabbat, j'observe les 10 commandements et je me comporte à l'égard de mon prochain maintenant. La meilleure façon que je puisse me comporter. Tout ça, c'est bien. Mais il y a quelque chose d'autre. 1 Jean chapitre 3, verset 22, Jean écrit sur l'inspiration divine, il dit, celui qui garde, non, allons-y, à 21, il dit, quoi que ce soit, voilà, 1 Jean 3, 22, quoi que ce soit que nous demandions, Et vous, il ne met pas d'exception. Nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que ses commandements ne sont pas difficiles, mais et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà. Il y a une différence, enfin une petite différence, entre observer les lois et faire ce qui est agréable à Dieu. Certes, si nous observons des lois, nous faisons ce qui est agréable à ses yeux, mais il y a un peu plus que cela. Il y a quelque chose qui nous vient par l'Esprit de Dieu, si nous sommes vraiment convertis, nous n'allons pas seulement observer la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. C'est intéressant car beaucoup de gens lisent la Bible d'une façon aveugle. Autrement dit, ils lisent la Bible les yeux fermés. Eh oui. Autrement, vous lisez la Bible, vos pensées sont ailleurs. Vous lisez la Bible comme vous lisiez un roman. Ce n'est pas ainsi qu'on doit étudier la Bible. Car vous ne comprendrez pas vraiment le sens des paroles divines. Vous ne comprendrez pas ce que c'est que le péché, à moins que vous puissiez vraiment pénétrer dans le sens de l'Esprit de Dieu lorsque vous lisez ces versets dont je vous parle et qui traitent du péché. Par exemple, Paul a dit dans Romains chapitre... Oui, c'est le chapitre 13. Là encore, il y a tellement de choses qui vraiment touchent le péché en ce qui concerne le péché, et parfois nous ne comprenons pas le sens car nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous dit. Voyez-vous, les gens lisent la Bible et disent, tiens, Paul dit ceci, Paul dit cela. Nous ne comprenons pas que ce que l'apôtre Paul écrit sous l'inspiration divine, c'est pour notre instruction, afin que nous puissions mieux comprendre, nous, ce qu'est le péché et comment nous en repentir. Prenez Romains 14. Là, je ne veux pas entrer dans ce sujet parce que Romains 14, on dira, oh voilà, voilà, maintenant on parle de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger. Non, mais seulement je veux prendre un verset à la fin de ce chapitre 14. Paul, après avoir donné des lois que les gens considèrent comme préceptes de tolérance, ce qui n'est pas le cas, Paul écrit ceci à la fin de ce chapitre, dit-il, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Notez cela. « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Mais vous devez être convaincu du point de vue du maître, divin. Autrement dit, si vous lisez la Bible et si vous voyez quelque chose et si vous êtes convaincu que vous devez faire quelque chose pour changer votre vie, si vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Voilà encore une autre définition du péché. Je connais des gens, et ça c'est intéressant, qui disent, « Oh, vous savez, moi je ne suis pas baptisé. Moi je ne suis pas chrétien. » Donc, moi, je peux pécher et je ne souffrirai pas les conséquences de ce que je fais. Non, ce n'est pas juste. Vous vous trompez. La transgression de la loi, que vous soyez baptisé ou non, entraîne toujours une amende. Vous ne pouvez pas vous en dégager. Et vous ne pouvez pas dire, écoutez, je ne suis pas baptisé, donc je peux transgresser les lois, je peux commettre l'adultère, je peux transgresser le jour du sabbat, je ne suis pas baptisé. Non, mes frères et mes sœurs, ne vous faites pas croire. Regardez ce que Jacques dit. On a encore une autre vérité indispensable pour comprendre ce qu'est le repentir. Et aussi ce qu'est le péché, évidemment. Jacques 4, verset 17. Écoutez bien, regardez bien, comprenez bien. Celui qui sait, ce n'est pas marqué le chrétien, ce n'est pas marqué le païen. Celui, autrement dit n'importe qui, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tiens. Donc, vous n'êtes pas baptisé, mais vous savez qu'il faut quand même obéir au commandement divin. Si vous les transgressez, vous commettez un péché. Voilà. Si vous savez, par exemple, qu'il faut observer le sabbat de l'Éternel, Que vous soyez baptisé ou non, si vous savez qu'il faut que vous l'observiez, si vous ne le faites pas, vous commettez un péché. C'est aussi simple que cela. Continuons. Je dis que c'est un sujet extrêmement important, extrêmement profond. Il faut que nous comprenions le sens. Tout d'abord, je répète une fois encore que lorsque les gens souffrent autour de vous, ne pensez pas toujours que ce sont de grands pécheurs, plus pécheurs que vous. Non. Comme le Christ a dit, à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez tous également. Certes, lorsque vous transgressez une loi, vous payez les conséquences, d'accord. Vous souffrez, d'accord. Mais ce n'est pas nécessairement le cas que parce que vous souffrez, vous avez commis un péché quelconque. Vous direz, je ne comprends plus rien. Vous dites, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, encore une fois, laissez-moi vous donner un exemple. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Ici, vous avez l'apôtre Paul qui parle et qui explique les souffrances qu'il a eues. L'apôtre Paul n'a pas vraiment, ici, souffert parce qu'il a commis des péchés. L'apôtre Paul a souffert parce que Dieu lui avait confié une tâche, une mission, et que Paul s'est acquitté de cette tâche. Et ce faisant, évidemment, les gens se sont tournés contre lui. Car si vous êtes véritablement chrétien, si vous faites ce que Dieu vous dit, il y a beaucoup de chances que vous souffriez les conséquences, surtout à l'heure actuelle. Je connais tellement de gens, mes amis, à Paris, j'ai 2 ou 3 exemples, des gens qui ont perdu leur travail à cause du sabbat, parce qu'ils devaient observer le sabbat le samedi, leur patron les a débauchés. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Vous ne souffrez pas parce que vous avez commis un péché, vous souffrez parce que vous avez obéi à Dieu. C'est le cas de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Alors, il commence à dire exactement ce que c'est, ce qu'il a fait dans sa vie. Il dit, regardez voir, dit-il, ce qui est arrivé à moi. Je paraphrase, et je prends maintenant le verset 26. Fréquemment, dit-il, j'étais en voyage, j'étais en péril, j'étais donc en péril de la part de ceux qui, de ma propre nation, en péril de la part des païens, en péril de tout. J'étais, dit-il, verset 27, j'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes, sans parler, dit-il, d'autres choses. Je suis assiégé, dit-il, chaque jour par les soucis que me demandent toutes les églises. Autrement dit, parfois on souffre à cause du travail que l'on fait lorsqu'on sert Dieu, mais ce genre de souffrance entraîne quand même des amendes. Si nous sommes vraiment chrétiens, Dieu nous donnera la force de supporter les amendes. Mais l'amende principale, c'est toujours le Christ qui paye. Le Christ est mort pour payer l'amende de toute l'humanité. Le moment où vous faites baptiser et que vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, dès ce moment-là, après votre baptême, tous vos péchés sont effacés, sont pardonnés, c'est fini. Malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas cela. Malheureusement, certaines personnes vivent toujours encore dans le passé. Oh, je ne peux pas me pardonner. Écoutez, si Dieu vous a pardonné, de quel droit vous ne vous pardonnez pas? Et c'est vrai. Si Dieu vous pardonne, pardonnez-vous aussi vous-même, comme vous pardonnez aux autres. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, j'ai vu tellement de gens dans ma vie. Des gens qui sont sincères, mais qui vivent dans le passé parce qu'ils ne peuvent pas se pardonner eux-mêmes. Et ce faisant, ils se torturent. Et ce faisant, ils continuent à pécher pour ainsi dire. Lorsque le Christ a dit « Repentez-vous », dès ce moment-là, vous devez comprendre que le repentir a pour conséquence le pardon du péché. Les vôtres et les autres. Donc, tâchez de vous torturer, de cesser de vous torturer. Tâchez de dire « Oh, Dieu ne m'a pas pardonné ». C'est ainsi que vous continuez à souffrir et que vous vous faites, mettons, du mauvais sang, alors qu'en réalité, vous pourriez avoir une vie tellement plus tranquille. Mais continuez avec le péché. Donc, parfois on souffre à cause de l'obéissance et toujours on souffre à cause de la désobéissance. Vous comprenez ce que j'entends. Allons encore un peu plus loin. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est que lorsque vous entendez la vérité, vous vous dites, je me demande si je veux vraiment suivre cette voie, si cette voie de la vérité me plaise. Et il y a des gens qui comprennent, qui se convertissent, qui se repentent de leurs péchés, mais ensuite, par faiblesse ou par envie, je ne sais, tout d'un coup, ils se détournent de la vérité. Ce faisant, ils retombent dans le péché. Donc, le repentir demande un changement permanent. Non pas un changement artificiel, mais un changement temporaire. Si vous prenez le temps d'examiner les églises dont l'apôtre Jean parle dans Apocalypse, chapitre 2, verset 3, vous verrez une chose. À chaque église, chaque phase d'église, si vous voulez, l'apôtre Jean écrit sous l'inspiration divine, « Repentez-vous, changez, celui qui vaincra jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, le péché est toujours avec nous en tant qu'êtres humains. Le repentir doit être permanent dans ce sens que chaque jour étant humain, nous faisons des fautes, j'espère pas volontaires, et chaque jour donc nous devons nous repentir avec la décision finale, la résolution finale de ne pas les répéter. Mais laissez-moi prendre la première phase de l'Église de Dieu après la mort et la résurrection du Christ, c'était l'Église d'Éphèse. C'était une Église qui a obéi à Dieu, surtout au commencement, une Église proche de Dieu, et regardez comment le Christ s'adresse à cette Église. Apocalypse chapitre 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Voyez-vous, ce sont des choses bien. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance. Voyez-vous, tout ça, c'est magnifique, c'est formidable. Le Christ loue cette phase de l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe? Prenez ça et puis comparez cela à vous-même. Vous avez au commencement cette attitude, mais avec le temps, vous perdez cette attitude. C'est ce qui s'est passé à l'Église d'Éphèse ici. Il dit, mais, verset 4, j'ai contre toi, dit-il, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, il y a des gens qui entrent dans l'Église, ils sont tellement heureux, ils sont tellement joyeux. Ah, ils ont découvert la vérité. Mais avec le temps, quelque chose arrive, voilà qu'ils se détournent de la vérité, ils abandonnent Dieu, ils abandonnent la vérité. Et c'est ce que le Christ dit. Il dit, j'ai cela contre toi. Et dit-il, repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Verset 5, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Je dis cela car c'est encore humain. Je connais pas mal de gens, des amis qui sont entrés dans la vérité, qui ont compris, ils ont écouté les émissions radiophoniques que nous avions auparavant, ils lisent les ouvrages que nous avons encore, ils entendent des sermons que nous trouvons dans l'ordinateur, mais voyez-vous, il n'y a pas de profondeur. S'il y a une autre tentation, s'il y a une autre porte qui s'ouvre devant eux, humainement parlant, ils vont vers cette direction. Autrement dit, Satan est toujours le diable, le maître de Dieu, je dirais, de ce siècle, de cette époque, jusqu'à ce que le Christ revienne. Satan fera tout pour vous détourner de Dieu. Et tout ce que Satan fait dans votre vie produit un péché. C'est cela dont vous devez aussi vous repentir. Mes frères et mes sœurs, cette lutte est difficile, mais Dieu peut tout faire. Le Christ a dit, je ne t'abandonnerai pas. Ayez les yeux sur le Christ, ayez vos pensées sur le Christ, soyez certains, ayez la foi que Dieu vous protégera, vous n'aurez pas besoin de craindre le diable. Plus vous vous éloignez du diable, plus vous vous éloignez du péché. De même, plus vous faites moins, je dirais, vous suivez moins les penchants de votre nature charnelle, moins vous péchez. Car notre nature charnelle plaît à Satan. Notre nature charnelle est sous l'influence de Satan. Donc mettez-vous sous l'influence de Dieu, vous verrez la différence dans votre vie. Dans Ésaïe chapitre 59, regardez voir comment le prophète Ésaïe s'exprime sous l'inspiration divine. Ésaïe 59. Vous savez, ce sont des vérités magnifiques, des vérités que nous devons vraiment apprendre, savoir que Dieu sait ce qu'il dit, et Dieu sait que nous pouvons nous tous lui obéir et faire sa volonté, car il nous a donné la force. Dieu ne nous demande jamais quelque chose que nous ne pourrions pas faire. Dieu ne nous demande jamais quelque chose que nous ne pourrions pas donner. Ésaïe 59, dis-je, verset 1, dit-il, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » C'est clair. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Regardez voir ça. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de l'Éternel. Voulez-vous être proche de Dieu? Voulez-vous connaître Dieu? Voulez-vous voir Dieu en quelque sorte dans votre vie? Eh bien, arrêtez de pécher. Nous avons nous autres tendances, comme j'ai dit, de juger les autres. Écoutez, les péchés de quelqu'un d'autre ne vont pas changer votre vie. Vous direz, oui, ça me touche une mort. Que ce soit un ami ou bien un membre de la famille, chacun doit payer pour ses propres péchés. Donc, lorsque vous commettez un péché, demandez à Dieu de vous pardonner, mais ne jugez pas les autres. Souvent, je vous dis franchement, en jugeant les autres, nous commettons un autre péché. Mais écoutez, mes frères et mes sœurs, Dieu nous aime chacun individuellement. Si quelqu'un, même proche de vous, ça n'a pas d'importance, fait ou commet des péchés, fait des fautes, eh bien, si vous pouvez l'aider, d'accord, mais ne soyez pas juge. C'est ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 7. Car autrement, vous retombez vous-même dans le péché. Lorsque j'ai dit que nous devons nous tous nous repentir pour entrer dans le royaume de Dieu, cela comprend toutes les phases du péché. Ça comprend Matthieu 7. Dans Matthieu 7, vous avez la partie, je dirais, spirituelle des lois divines. Car les lois divines ont deux côtés, pour ainsi dire, le côté physique et le côté spirituel. Le côté physique, comme le Christ a dit, si tu regardes une femme, tu l'envies, c'est le côté physique. Mais si tu ne commets pas l'adultère physiquement parlant, mais tu as l'adultère dans ton esprit, c'est la même chose. Donc c'est ça la différence, voyez-vous. Le crime, vous commettez un crime, physiquement parlant, c'est le côté physique. Mais vous commettez un crime dans votre esprit contre quelqu'un, c'est le côté spirituel. Alors, si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons savoir que le repentir doit être profond, dans ce sens que nous devons nous repentir non pas seulement de nos actes, mais aussi de nos pensées. Voilà pourquoi le Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, j'espère que vous me suivez, car ce sujet est simple et en même temps un peu compliqué. Parce que nous avons cette tendance de faire une différence. Mais c'est pas grave, c'est dans mes pensées. Ah non, si c'est dans vos pensées, et si c'est mauvais, c'est grave. C'est aussi grave que le péché physique que nous commettons. Matthieu chapitre 7 dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, cause et effet. Car, dit-il, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est ça la vérité. Vous savez, dans la vie, nous avons tous, certes, des occasions où nous voudrions juger les autres. Dans la vie, nous voyons quelqu'un qui entend la vérité, qui apprécie la vérité. Ça peut être un membre de notre famille. Et ensuite, avec le temps, ce quelqu'un se détourne. Pourquoi ? Autrement dit, y a-t-il quelque chose que vous auriez pu faire à un ami, à un membre de la famille, afin qu'il puisse, lui, s'avancer davantage vers la vérité et s'accrocher davantage à cette vérité et ne pas se détourner. Souvent, je vous dis, nous ne faisons pas notre devoir. Un peu d'amour, du vrai amour, peut garder quelqu'un proche de vous, de la bonne façon. Je connais tellement en nouveau, parce que j'ai beaucoup contact avec des gens qui entendent la vérité à la radio, ou bien par les ouvrages que nous avons, et ils sont vraiment emportés, ils disent « c'est formidable !» Et ils veulent absolument faire partie de cette Église, faire partie de cette vérité. Qu'est-ce qui se passe? À nouveau, prenez la Bible et regardez voir comment Dieu explique cela dans Matthieu chapitre 13. Le Christ a donné une parabole dans Matthieu 13. Ensuite, au verset 18, il explique. C'est exactement ce dont nous parlons, voyez-vous. Entendre la vérité ne signifie pas, ne suffit pas. Entendre la vérité et ne rien faire ne suffit pas. Entendre la vérité et maintenir dans cette bonne voie, c'est ça que Dieu demande. C'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, nous arrivons. Matthieu 13, verset 18. Vous donc, dit-il, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin, donc Satan, vient et enlève ce qui a été semé. Et cet homme, dit-il, est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Autrement dit, ce n'est pas profond. Ensuite, dit-il, le Christ explique, celui, dit-il, qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, pas de profondeur. Il manque de persistance. Et dès ce moment-là, évidemment, ce qui se passe, dès que survient une tribulation, il se trouve, ou bien une occasion, c'est une occasion de chute pour lui. Voyez-vous, voilà les différentes phases de notre conversion. Les gens peuvent être sincères, mais la sincérité dans l'erreur n'est pas une excuse. La sincérité doit être toujours fondée sur la Bible, sur la vérité, et nous devons, nous, y marcher, sans faire des détours. Ensuite, celui qui a reçu la parole, dit-il, mais en qui il y a les soucis du siècle, la séduction du monde et richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Là encore, il se peut que ce soit votre cas. Il se peut que ce soit le cas d'un de vos amis ou d'un membre de votre famille, qu'importe. Le fait est que être chrétien, mes frères et mes sœurs, n'est pas toujours facile. Être chrétien n'est pas toujours synonyme d'avoir tout ce que vous désirez. Pas du tout. Je dirais même tout ce dont vous avez besoin. Enfin, comprenez bien, ce dont vous avez besoin, Dieu vous donnera, si vous êtes vraiment chrétien. Peut-être pas autant que vous vouliez, mais vous aurez toujours satisfaction d'avoir ce dont vous avez besoin. Mais être chrétien, je répète, a un prix qu'il faut payer. Ce prix, c'est le sacrifice de votre vie physique, dans ce sens que vous devez tuer vos penchants charnels, vos penchants naturels. C'est ça le repentir. Le repentir, ce n'est pas suivre la voie de vos sentiments charnels. Se repentir, c'est faire ce que Dieu vous dit de faire, quelles que soient les conséquences à payer. Ensuite, le Christ, dans cette parabole, il arrive donc à la dernière. Il y a quatre catégories ici. Il dit, celui qui a reçu, dit-il, verset 23, la parole, la bonne terre, et qui la comprend, il porte du fruit. Un grain en donne 100, un grain en donne 60, un grain en donne 30. Autrement dit, chacun de nous qui sommes appelés, qui restons fidèles à Dieu, qui respectons ses lois, qui seront, en fin de compte, dans son royaume, chacun de nous n'a pas le même talent. Vous avez peut-être beaucoup plus de talent que moi. Vous pouvez faire beaucoup de choses que moi, ainsi de suite. Nous avons tous des talents que nous avons reçus. Nous devons faire valoir ces talents. Ça, c'est encore la vérité. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas trouvent injustice avec Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu est toujours juste. Il ne vous demande pas ce que vous ne pouvez pas donner. Il ne vous demande pas quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir. Là encore, si vous comprenez cette simple vérité, vous serez moins tenté à douter de la bonté de Dieu. Continuons, parce qu'il y a tellement de sujets ici, voyez-vous. Le fait est que le Christ doit revenir pour changer ce monde. Le Christ viendra pour changer ce monde. Et à ce moment-là, pas mal de gens, je veux dire la plupart des gens qui sont encore, qui seront en vie à ce moment-là, comprendront une chose, que tout au long de cette vie, que la plupart des gens n'ont pas compris, tout au long de cette vie, dis-je, le Christ est ici, avec nous, par son esprit. Nous pouvons nous approcher de lui, nous pouvons nous repentir de nos péchés, nous pouvons nous faire baptiser, recevoir son esprit et permettre au Christ qui est en nous d'agir, de nous guider. Mais là encore, vous êtes toujours sujet aux tentations de Satan. Parce que, voyez-vous, humainement parlant, je voudrais faire des choses qui plaisent à ma nature charnelle, mais qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Comme Jean a dit, ce que je fais qui n'est pas agréable à Dieu, eh bien, Dieu ne me bénira pas, c'est un péché. Alors, ayez ça en tête. Ayez ça en tête et sachez que si vous êtes vraiment chrétien, si vous avez reçu le Saint-Esprit, à moins de patienter, à moins de persévérer, à moins d'avancer dans cette voie, vous serez sujet toujours aux tentations de Satan et vous tomberez, vous chuterez, à moins de persévérer dans la voie, comme le Christ a dit. Nous sommes, nous autres, dans l'Église de Dieu, pour une bonne raison, pour une seule chose, je dirais. Là encore, certains d'entre nous ne comprennent pas. Même les gens du monde ne comprennent pas. Moi, je suis dans l'Église de Dieu, non pas parce que je suis meilleur que les autres, pas du tout. Moi, je suis ministre de Dieu, non pas parce que je suis meilleur que les autres, pas du tout. Je suis peut-être le plus moins capable de tout le ministre, je ne sais pas. Mais nous tous, que nous soyons membres de l'Église de Dieu, ministres, diacres, ou tout à coup je dirais simples membres de l'Église, nous avons tous un même but, un but collectif, de préparer le chemin du retour du Christ. Ça, c'est le but de l'Église. L'Église aujourd'hui est composée de ceux qui veulent se soumettre à Dieu, qui veulent se repentir et qui restent toujours dans une attitude repentante. Mais quelle est donc la raison pour laquelle Dieu vous a appelé, vous, si vous êtes converti? Moi, quelle est cette raison? Cette raison de préparer le chemin du retour du Christ, la voie du retour. C'est ça, c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui appelés en tant que membres de l'Église. Mais je parlais du retour du Christ. Avec ce qui se passe en ce bon monde, ces tentations, ces crimes, ces souffrances, parfois nous perdons cette conviction. Et ce faisant, vous savez ce qui se passe? Nous nous détournons de Dieu. Nous abandonnons Dieu. Voilà pourquoi le Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, Maintenant que vous comprenez la raison pour laquelle l'Église existe, la raison pour laquelle le Christ a bâti son Église, le Christ dit dans Matthieu 24, lorsqu'il parle de son retour, il parle de vous et de moi, si vous êtes convertis. Et du verset, au verset 48, Matthieu 24, il dit, je vous dis d'abord la vérité, Dieu établira celui qui est un bon serviteur, et que lui, le Christ, lorsqu'il arrive, il le trouvera faisant ainsi. Verset 43, 45 plutôt, il parle maintenant du fidèle serviteur. Donc, tâchons d'être fidèles serviteurs afin que le Christ, lorsqu'il arrivera, nous trouvera occupés à notre tâche. C'est ça, ce mot faisant ainsi. Il faut que le Christ nous retrouve à notre tâche à son retour. Ça, c'est le but. Si vous n'avez pas cette responsabilité, si vous n'accomplissez pas votre rôle, vous n'êtes pas dans ce groupe. Et vous continuez à vivre dans le péché. Mes frères et mes sœurs, tâchez de comprendre. Les personnes, les gens que Dieu appelle, ne sont pas meilleurs que les autres. La seule différence, c'est que ces gens, vous, moi, mettons, ont une responsabilité aux yeux de Dieu. De préparer le chemin et nous être toujours prêts, nous-mêmes, individuellement, à son retour. Alors, revenons à ce que nous disions en ce qui concerne le péché. C'est intéressant car il y a des gens qui disent « Oh, on peut toujours se repentir d'un péché. » Oui et non. On peut se repentir si on est sincère. Mais il ne faut pas prétendre. Il ne faut pas jouer de la comédie aux yeux de Dieu. Il faut certes se confesser devant Dieu, faire la volonté de Dieu, et toujours demander à Dieu pardon et demander à Dieu la voie à suivre. Vous savez quoi, mes frères et mes sœurs? Il y a des gens qui ne se pardonnent pas, comme je viens de dire. Il y a des gens qui ne comprennent pas la bonté de Dieu. Savez-vous que dans la Bible, je peux vous trouver, j'espère que j'aurai le temps, je peux vous trouver des exemples dans la Bible où l'homme en question est tellement pécheur, est tellement mauvais, que vous direz, voilà, cet homme est condamné à mort, à perpétuité. Non, Dieu est toujours bon. Dieu est toujours fidèle à ses lois. Si Dieu vous a pardonné, si vous vous repentez sincèrement de vos péchés, Dieu vous pardonnera toujours, à moins que, donc, je répète, vous jouiez de la comédie. Laissez-moi vous montrer un exemple d'un roi ancien. C'est dans 2 Rois, chapitre 21. C'est très intéressant car vous pouvez voir l'attitude du roi. 2 Rois, chapitre 21. Ici, nous avons un roi qui s'appelle Achab, ou Achab, comme vous voulez. Cet homme-là, je dis, lorsqu'on lit la Bible, on peut voir, on ne peut pas vraiment être plus mauvais que lui. On peut pas commettre davantage de fautes. Alors, 2 Rois, chapitre 21. Ça vous montre la bonté de Dieu, et je dirais, plus que cela, ça vous montre le désir de Dieu de vous être, de vous sauver même s'il n'y a plus d'espoir. Achab, ou Achab, si vous voulez, était un roi d'Israël extrêmement mauvais. La plupart des rois en Israël étaient mauvais. Lorsque vous lisez la Bible, d'entre les mauvais, vous avez le plus mauvais, c'est un peu trop, vous savez. Regardez voir ce que Dieu, comment Dieu est décrit. 2 Rois, chapitre 22, verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab ou Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, autrement dit, il se repent, il jeûna. Et ensuite, la parole de Dieu arrive, l'Éternel dit à Élie, « As-tu vu, verset 29, as-tu vu, dit-il, comment Achab s'est repenti devant moi ?» Parce qu'il s'est repenti, dit-il, il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais pendant la vie de son fils. Mais je répète, si vous lisez le chapitre tout entier, vous verrez que Achab ou Akab a commis plus de péchés que n'importe quel autre roi. Donc, si un roi, le pire des lois, peut être pardonné, le pire des hommes peut toujours être pardonné s'il se repentirait profond. Vous savez, vous pouvez voir dans la Bible qu'il y a des péchés dont on ne se repent pas. Par exemple, l'apôtre Jean parle. Qu'est-ce que c'est qu'un péché dont on ne se repent pas? L'apôtre Paul en parle dans Hébreux chapitre 10 aussi. Il y a un péché dont vous ne pouvez pas vous repentir. C'est lorsque vous commettez un péché volontairement, délibérément, et vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas vous mettre à genoux et dire « Dieu, j'ai péché ». Au contraire, vous repoussez Dieu, vous transgressez ses lois volontairement, avec compréhension, non pas, je dirais, par ignorance. Vous direz « Non, je ne veux pas obéir à Dieu, j'entends ce que je dis ». Ça, c'est le péché impardonnable. De ce péché, il n'y a pas de pardon, évidemment. Mais je vous dis franchement, dans ma vie, je n'ai pas vu cela. J'ai rencontré pas mal de gens et je n'ai pas vu des attitudes pareilles. Certes, comme je dis, nous devons toujours être prêts à être juges nous-mêmes. Laissez-moi prendre un Jean chapitre 5. Je pense que ça peut peut-être vous aider à comprendre. 1 Jean chapitre 5. Parce que ce sont des questions qu'on nous pose. Et je voudrais pouvoir vous expliquer cela, afin que vous ne soyez pas découragés, parce que certaines personnes sont découragées, comme je viens de dire, parce qu'ils savent que Dieu ne les a pas pardonnés. Non, si vous faites votre part, Dieu vous pardonnera toujours. 1 Jean chapitre 5. Verset 14. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, dit-il, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui demandons. Ensuite, Jean ajoute, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, ça veut dire quoi? Tout péché mène à la mort, mais le Christ a payé l'amende de tout péché. Ici, la question du péché dont je vous parle, du péché dont les conséquences, ou la conséquence, je dirais, c'est fatal. Lorsqu'il s'agit d'un péché que vous commettez volontairement, avec discernement, vous savez que c'est mauvais et que vous voulez quand même vous tourner contre Dieu délibérément. C'est de cela dont l'apôtre Jean parle. Si quelqu'un, dit-il, verset 16, voit son frère, etc., il dit, voit son frère, donc, commettre un péché qui ne commet pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera, dit-il, la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché, dit-il, qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là dont je vous parle. Donc, je dis, ce péché-là, c'est lorsque c'est volontaire, c'est délibéré. Et de ce point de vue-là, je vous dis franchement, lorsqu'on me pose des questions, on me pose, je ne réponds pas. Par exemple, on dira, est-ce que telle et telle personne a commis un péché dans la Bible? Je dis, je ne sais pas. C'est Dieu qui est juge, Dieu vous dira. Parce qu'il y a des gens qui, dans la Bible, prenaient Pilate. Pilate a refusé d'obéir à la voix de l'Éternel, pour ainsi dire, et d'a condamné le Christ. Est-ce qu'il a commis le péché impardonnable? Je ne peux pas vous dire. C'est à Dieu. Dieu seul juge et juge. Prenez Judas, Iscariot. Certes, il a trahi son maître. Il était apôtre. Mais voyez-vous, dès ce moment-là, nous entrons dans un domaine qui ne nous regarde pas. Dieu est juge. Laissez Dieu faire les choses. Lorsque Judas s'est repenti, il s'est repenti. Mais comment s'est-il repenti? Je n'aurai pas le temps, mais vous n'avez qu'à prendre vous-même la Bible, vous verrez comment il s'est repenti. Il s'est pendu. Mais vous commettez un péché avec un autre péché, ça, c'est pas le repentir. Prenez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a écrit deux épîtres fantastiques dans la Bible, l'apôtre Pierre qui était toujours là à suivre le Christ, l'apôtre Pierre qui a tout abandonné lorsque le Christ l'a appelé, c'est ce même apôtre Pierre qui a dit au Christ, écoute, même si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais lisez Matthieu 26, Matthieu 27. Lorsque les soldats romains sont arrivés, lorsque le Christ était devant le tribunal humain, quand il a été reconnu par certains d'autres, il dit, oh moi, oh non, non, je ne suis pas du groupe. Autrement dit, il a renié le Christ. Alors, a-t-il commis le péché pardonnable? Non, certainement pas, parce que Dieu a dit à Pierre, tu seras dans le royaume avec moi. Mais l'apôtre Paul, voyez-vous, il s'est repenti. Ce n'était pas un péché qui mène à la mort. C'est un péché dû à la faiblesse humaine, et nous sommes tous faibles. Ce n'est pas une excuse pour pécher, non. Mais avec cette faiblesse, parfois nous commettons un péché dont nous sommes extrêmement, je dirais, dont nous avons honte. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lorsque trois fois il a renié, et que le Christ lui avait dit, « C'est Pierre, tu me renieras trois fois avant que le coq chante. » Et là encore, Pierre, à l'époque, ne voulait pas croire. Et lors de ce procès, lorsque le coq a chanté, le Christ a regardé. J'étais un coup d'œil sur l'apôtre Pierre. Vous savez, la Bible ne me dit pas tout. Je me demande quel a été le sentiment de l'apôtre Pierre lorsque le regard du Christ s'est porté vers lui. Il s'est rappelé ce que le Christ lui avait dit. Tout ce que la Bible dit, vous savez, ça suffit. Pierre ne s'est pas repenti comme Judas, non. Pierre pleura amèrement. Pierre pleura amèrement. C'est une petite phrase, si vous voulez, mais ça prouve l'aptitude de Pierre. Bon, continuons un petit peu. On parle de se repentir. Prenez Jonas. Là, voyez-vous, Jonas encore, c'est une autre histoire. Là, nous avons quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. Dieu l'appelle et Dieu veut que Jonas fasse une mission pour lui. Mais Jonas ne voulait pas faire ça. Et il voulait donc s'évader, il voulait trouver toutes sortes d'excuses. Pourquoi? Quelle était la raison pour laquelle Jonas voulait éviter? Donc, il ne voulait pas obéir à Dieu, bien suivre ce chemin. Parce que, là encore c'est intéressant, parce que Jonas savait que Dieu est bon, Dieu est juste, et que Dieu pardonne tous les péchés. Et que si jamais Dieu avait quelque chose comme mission, et que si cette mission ne s'accomplissait pas comme Dieu l'avait dit, Jonas serait un faux prophète. Autrement dit, cette nature humaine, c'est toujours cette nature humaine, je vous dis franchement, qui nous induit en erreur. Voyez-vous, prenez votre exemple, avant de venir à Jonas, Dieu vous a appelé, vous autres, si vous êtes appelés dans l'Église de Dieu, pour une mission que je viens de dire, que nous devons proclamer l'Évangile. Bon, vous avez une part à jouer dans cette mission. Et si vous jouez cette part, si vous faites votre part, vous serez récompensé. Autrement, vous n'aurez pas, vous, le rôle que Dieu vous a promis dans le royaume. Je paraphrase parce que, voyez-vous, je crains que si je commence à ouvrir les pages de la Bible et que j'ai tous les versets, je ne pourrai pas m'en sortir avant que mon temps arrive pour arrêter ce sermon. Laissez-moi paraphraser. Jonas était un homme, un serviteur que Dieu a aimé, que Dieu a appelé. Et lorsque Dieu l'a appelé, Jonas s'est enfui. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas faire ce que Dieu allait lui dire. Et Dieu lui a dit, écoute, va à Ninive, une ville pleine de pécheurs, comme aujourd'hui, et dire aux gens qu'encore 40 jours, tout sera détruit. Qu'est-ce qui se passe? Jonas ne veut pas faire ça. Il ne veut pas s'acquitter d'une telle mission. Alors, pour l'histoire, il s'enfuit. Si Dieu vous donne une mission, si Dieu vous conseille une mission, tâchez d'accomplir cette mission. Ne vous évadez pas parce que Dieu fera de ça en sorte que vous puissiez vous acquitter de cette mission. Donc, Dieu a fait sortir un gros poisson. Le poisson a avalé Jonas. Et ensuite, Jonas, dans le ventre du poisson, s'est repenti. Il a compris. Ensuite, après, il va donc à Ninive et il proclame en fin de compte, c'est l'histoire, je vous donne cette histoire, mais lisez-la vous-même plus tard. Il dit aux gens, écoutez, encore tant de jours, et Ninive sera détruite. Tout, hommes, enfants, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà maintenant, nous avons affaire à un repentir collectif. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose que jamais dans l'histoire humaine ne s'est jamais reproduit. Jamais. Toute la nation, Ninive, la ville toute entière, le roi même, se sont repentis. Ils sont repentis, le roi a même déclaré que les animaux jeûnent. Regardez comment, toute la ville s'est repentie. Dieu a changé d'avis. Donc Dieu peut changer d'avis. Dieu change d'avis si vous-même vous changez votre façon de vivre. Mais l'histoire ne se termine pas, là-bas. L'histoire de Jonas est une histoire fantastique pour nous autres pour comprendre. Jonas ne pouvait pas comprendre que Dieu peut pardonner et veut pardonner à ceux qui se repentent, quel que soit le crime commis. Donc, il s'est dit, bon, moi, puisque Dieu m'a confié une mission et que cette mission ne s'est pas accomplie, moi, je m'en vais. Et la fin de l'histoire, c'est encore plus intéressante, c'est que, voyez-vous, il était déçu parce que Dieu s'est montré juste et bon envers les autres. Alors, il dort, voilà qu'il y a une plante que Dieu a fait pousser et que cette plante protège Jonas du soleil. Et Dieu fait sécher cette plante. Tout d'un coup, voilà que Jonas se fâche. Pourquoi? Voyez-vous, Dieu lui a montré une leçon. Parce que Jonas s'est fâché à cause de la plante. Et Dieu a dit, écoute, cette plante, aujourd'hui, ça pousse demain. C'est mort. Tu ne veux pas que moi j'aie de la pitié à une ville pleine d'enfants, pleine de femmes, pleine de gens. Voyez-vous, ça prouve une chose. C'est pourquoi je vous donne cet exemple. Si j'avais lu, ça prendrait toute une demi-heure, mais le fait est ceci. Si vous vous repentez de vos péchés, Dieu vous pardonne. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est l'une des meilleures nouvelles que vous puissiez entendre. Je ne sais pas si vous n'avez jamais pris le temps d'étudier la Bible dans ce sens, que jusqu'où va la bonté divine, jusqu'où va la sagesse divine, jusqu'où va la fidélité divine. J'ai encore un exemple, mais je peux vous dire à nouveau, juste paraphraser. La Bible parle d'une femme adultère dans Jean chapitre 8. Les gens condamnés, le Christ a dit, écoute, tu as commis un péché, je paraphrase Jean 8. Il dit, les autres ne t'ont pas pardonné, moi je te pardonne. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la base. Si vous vous rendez compte d'un péché que vous avez commis, repentez-vous, ne répétez plus, et Dieu vous pardonnera toujours si votre repentance est permanente. Je vous dis, il y a tellement de choses que j'aurais voulu vous dire dans ce sermon. Parce que dans ce sermon, je voudrais vous encourager. Encouragez de ce que les gens autour de vous, trouveront faute en vous. Les gens autour de vous se moqueront de vous. Les gens autour de vous penseront que vous êtes un peu, je dirais, malade parce que vous obéissez à des lois qui sont, entre guillemets, juives. Non, les lois de Dieu ne sont pas juives. Les lois de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, sont des lois qui nous protègent du péché. Chaque fois que nous transgressons une loi, je répète et je répéterai, selon la Bible, une amende s'ensuit. Le Christ a payé l'amende de la mort, mais vous devez vous continuer à vivre sous la protection divine en respectant les commandements de Dieu. Et pour terminer, ce qui va se passer. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous sommes un petit troupeau. Il y a 6 milliards de personnes aujourd'hui de par le monde. Parmi les 6 milliards, nous ne sommes que un tout petit groupe à proclamer l'Évangile, à dire ce qui va se passer selon la Bible. Et en fin de compte, Dieu va aussi nous récompenser ou nous punir selon le cas. Je dirais récompenser si nous, en tant que membres de l'Église, nous acquittons notre tâche. Il y a une chose que vous devez vous rappeler, mes frères et mes sœurs. Vous-même, vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes même pas juge pour vous-même. Votre juge, c'est le Christ. Et votre manuel, c'est la Bible. Prenez cette Bible en tant que base dans tout ce que vous faites. Si dans la Bible, vous voyez quelque chose que vous faites et que Dieu condamne, cessez de faire. Si dans la Bible, vous voyez des choses que Dieu vous commande de faire, faites-les. C'est ainsi que vous pouvez toujours vous mettre sous la protection divine. Ça, je vous répète, c'est la base même de la compréhension. Je pense que j'ai encore le temps de vous donner un exemple. Vous savez, lorsque je parle, les exemples m'arrivent dans mon esprit. Mais je vais vous montrer jusqu'où va la bonté divine. Je vous ai montré avec Jonas. Je vous ai montré avec les autres. Mais ici, laissez-moi vous montrer la bonté de Dieu à l'égard d'Abraham. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Abraham était un homme selon le cœur de l'Éternel, et Abraham était dans Sodome et Gomorre. Et Abraham a vu que Sodome et Gomorre allaient être détruits par Dieu. Alors, Abraham fait une demande à Dieu. Genèse 18. L'Éternel dit, verset 17, il faut que je révèle à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation, une grande nation puissante, et en lui seront donc, toutes les familles seront bénies. Quand j'ai choisi, etc. Mais vous, tout ça c'est bien. Et Abraham n'était pas tout à fait content de cette décision divine. Vous voyez, il a vie assurée. Mais il y a les autres, dans Sodome et Gomorre, qui seront détruits, qui perdront leur vie. Alors, Abraham se tient en présence de Dieu, verset 22. C'est intéressant comme la Bible est écrite. Il dit, verset 23, à l'Éternel, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Vous savez, dans Sodome et Gomorre, il y avait beaucoup de gens, d'accord, mais peut-être il y avait quelques-uns qui étaient bons aux yeux de Dieu. Donc, c'est ce qu'Abraham voulait savoir. Donc, peut-être y a-t-il 50 juste au milieu de la ville. C'est intéressant comment Abraham aborde le sujet. Il a presque peur. Il dit, feras-tu aussi périr les 50 à cause des méchants. Le Christ dit, s'il y a 50, dit-il, je pardonnerai à la ville. Ensuite, Abraham va un peu plus loin. Peut-être dit-il au verset 28, peut-être n'y a-t-il que 45, comme il présente la chose. Et le Christ répond la même chose. S'il y a 45 justes, dit-il, dans la ville, je pardonnerai à la ville. Ensuite, Abraham répondit au verset 30, que le Seigneur ne se fâche pas. Il dit, et je parle encore, peut-être ne se trouve-t-il que 30. C'est la même question. Il dit, non, dit-il, Dieu dit, si je trouve 30, je l'épargnerai à cette ville. Abraham dit au verset 32, vous savez, on a commencé par 50, on arrive maintenant à 10. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas, il y a de quoi s'irriter. Et je ne parlerai plus, dit-il, que cette fois encore. Peut-être s'y trouve-t-il seulement 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Vous comprenez la profondeur de cette révélation divine. Voilà où nous en sommes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde pourri. Si nous, en tant que disciples de Christ, nous pourrons être parmi ces justes, peut-être certaines personnes auront la vie épargnée à cause de nous. Faisons notre tâche. Dieu seul est juge. Soyons bons à l'égard de tout le monde, aimons notre prochain comme nous-mêmes, et avant toute chose, mes frères et mes sœurs, soyez sûrs que chaque nuit, chaque soir, lorsque vous vous mettez à genoux, vous demandez à Dieu pardon de vos péchés, et demandez-lui de vous aider à comprendre le chemin à suivre, afin que vous puissiez être non pas digne d'être dans son royaume, mais aussi d'être un serviteur utile. Car c'est pour cette raison-là que vous et moi, nous avons été appelés.